Vous êtes sur HDR et vous avez sacrément raison, c'est ton libre. Il est 20h, passé de quelques minutes et on se retrouve jusqu'à 21h pour continuer à parler de démocratie. Et aujourd'hui, nous allons faire un focus sur la démocratie participative. Et pour en parler, plein de monde dans le studio ce soir avec moi. Petit tour de table de présentation et d'accueil de mes invités. Ils sont tous là. Je vous les présente. Eh bien, alors en face de moi, on retrouve Daniel Delahaye. Bonjour.
Bonjour.
Alors voilà, on approche les micros, on se met à l'aise. Très bien. Bonjour, Daniel.
Bonjour.
À côté de vous, Francis Biat. Bonjour.
Bonjour.
À côté de vous, Francis Louise Auviève.
Bonjour. Bonjour.
Marie, notre chroniqueuse.
Bonsoir.
Toujours là avec nous, qui vous a écrit une belle chronique qu'on écoutera dans quelques instants. Emmanuel également est là. Salut Emmanuel.
Bonsoir.
Le grand retour, n'est-ce pas, dans ton livre. Et puis Emilien. Salut Emilien. Alors toi, tu es parti faire un reportage une fois de plus dans les rues de Rouen. Alors, je suis pas sûre qu'on t'entende avec ton micro. Voilà, bon, on va switcher.
Ouais.
Voilà, encore un nouveau reportage dans les rues de Rouen.
Un petit peu dans un lieu un peu différent de l'habitude, c'est de changer un petit peu.
D'accord, très bien, on l'écoutera tout à l'heure. Merci à vous tous d'être là, donc voilà, une heure ensemble. On écoutera aussi un peu de musique parce que le son c'est la vie, on n'oublie pas. Et pour ouvrir cette émission, nous allons parler de démocratie participative, mais pas que. J'aimerais, Marie, peut-être commencer cette émission avec toi.
D'accord. Mais écoutez, on va discuter d'un sujet. J'ai découvert récemment que ma meilleure amie était déléguée CGT. La CGT. Alors, on se connaît depuis 25 ans et franchement, je ne l'aurais jamais imaginé. Elle me l'a balancé un midi en terrasse autour d'un croque-monsieur et puis d'un Perrier. Et puis d'une discussion sur la loi travail du gouvernement. Elle est déléguée CGT. Peu active, mais elle s'engagera le 9 mars prochain pour la grande manif. Alors j'avoue, je suis tombée de ma chaise, elle, déléguée syndicale, ça m'a fait l'effet de voir un agent du KGB considéré comme agent dormant qui sortirait de sa clandestinité. Mmh. Et son engagement date du début de sa vie professionnelle, on se connaît depuis 25 ans et je ne le savais pas. Donc premier contrat de travail, adhésion syndicale dans la foulée, une tradition familiale de père en fille. Elle bosse dans le privé, à un poste de manager, son truc c'est de faire du business à l'international, mais du business façon humaine, avec déontologie et puis un sens pratique hors norme. Pour autant, même en sachant qu'elle n'est pas la plus grande pote du capitalisme, jamais j'aurais imaginé qu'elle puisse être militante. Mais alors si sous mon nez, au cœur de mon système social et amical, je n'ai pas vu la déléguée de la CGT, combien sont-ils ces agents dormants? Combien sont-ils ces compatriotes qui ont des convictions non affichées et susceptibles de ressurgir quand trop c'est trop? Est-ce que ce sont par exemple ces milliers de personnes qui ont marché sur la voie rapide Vannes-Nantes samedi? Est-ce que ce sont eux qui se battent pacifiquement contre l'absurde projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et contre notre État arc-bouté sur ces vieux projets d'aménagement du territoire obsolète? Est-ce que ce sont eux, jeunes et vieux, de tous horizons, de toutes catégories socio-professionnelles et de toutes les régions, qui vont finalement peut-être nous éviter cette faillite politique et économique? Et du coup, vous et moi, là-dedans? Pour tout dire, à 14 ans, je prenais mon premier bâton de pèlerin avec ma première manif contre Devaquet dans mon collège de Bretagne, et puis d'autres se sont succédés. Et puis ma petite voix s'est tue. Est-ce qu'elle est elle aussi dormante? Est-ce que le 9 mars, j'irai rejoindre les syndicats sur le bitume? Enfin, pas tous les syndicats, hein, parce qu'aujourd'hui j'ai reçu deux mails de la CFDT et ils n'en parlent pas. Pour ceux qui se seraient passés à travers, il s'agit de la manif contre la loi travail proposée par un collectif qui précise que cet appel n'est pas à l'initiative d'une organisation et que c'est un appel citoyen et militant. Être citoyen et militant. Voilà, être citoyen seul, ça ne suffit plus. Il faut aussi être militant. En tout premier lieu parce que la classe politique est majoritairement sclérosée, complètement figée dans des schémas de fonctionnement pour lesquels le mot obsolète est lui-même dépassé et totalement sourd à ce qui se dit. Écrit, et peut-être même un peu partout dans la presse et sur les milieux de pages des réseaux sociaux. Et puis, ils sont hermétiques à la voix des habitants de France. Militants, parce que finalement, la démocratie mérite cela, que l'on milite pour elle, pour lui garder son essence et sa force. Et puis enfin, parce que militer, ça fait un bien fou, ça vous replace au cœur de ce que vous êtes, de vos fondamentaux. Être citoyen, c'est pas galvauder, mais seul, c'est un peu comme le yin et le yang, ou comme une tarte aux fraises, sans fraises. Bref, ça sert à rien. Tout le monde sait ça. Reste la question du militantisme numérique. Est-ce que c'est assez pour faire entendre sa voix? Est-ce que se contenter d'une pétition en ligne, ça fait suffisamment militant? Est-ce que c'est une vaste question que notre société en mutation? Et donc le 9, Il y a des chances que ma petite voix à moi se réveille, citoyenne et militante d'un jour. Bon, j'avoue, j'ai eu la flemme de lire toutes les 131 pages du projet de loi. Croyez-moi, c'est pas le genre de chose qui fait vibrer mon cortex cérébral, mais le retour à Germinal, ça me tente moyen. Du coup, j'irai sans doute rejoindre les citoyens.
Ah, merci Marie. Alors, bonne question que tu poses. Citoyen, militant, l'un ou l'autre, ou peut-être les deux. Je suis sûre que nos invités ce soir auront l'occasion, et puis chroniqueurs également, de réagir à cette question. Alors, je voudrais, avec vous... Louise, Francis et Daniel, peut-être commencer par une question simple. Pour vous, la démocratie participative, qu'est-ce que c'est ? Alors, honneur aux dames, peut-être, Louise Auvièvre. Donc je précise, hein, vous participez justement à des instances de démocratie participative à Rouen, au sein d'un conseil de quartier et d'un conseil citoyen. Alors, pour vous, la démocratie participative, comment vous la définiriez ?
Ben, je définirais comme quelque chose de très compliqué quand même. Mm-hmm. La démocratie participative, comment je pourrais m'exprimer ? Pour moi, ce sont pratiquement des mots. Mm-hmm. Parce que bon, je fais partie des conseils de quartier depuis le début des conseils de quartier. Pour pouvoir suivre les requêtes, etc., oui, il faut avoir... des nerfs d'enfer.
Ah, des nerfs d'enfer.
Parce que on a l'impression qu'on n'est pas écouté, mmh, entendu, et qu'il n'y a pas beaucoup de suivi, ça ne suit pas.
D'accord.
Voilà. Donc il faut remettre sans arrêt l'ouvrage pour obtenir. Bon, on obtient des choses, mais oui, c'est très très long.
D'accord. Est-ce que vous sentez dans ces instances avoir un rôle peut-être de courroie de transmission entre des habitants qui sont aussi citoyens et le politique ?
Ben, on aimerait, par exemple, on aimerait être mieux connu et mieux reconnu des habitants, mais je pense que le problème des habitants, c'est que ils ne voient rien venir.
Ouais.
Donc, où c'est tellement long que...
Donc, la distance qu'il peut y avoir entre le temps administratif et le temps politique vide un peu de son sens
tout
ce que
fait.
Vous essayez de faire en termes de démocratie locale.
Oui, tout à fait.
Alors, je reviendrai vers vous, évidemment, tout à l'heure. Daniel Delahaye, alors je ne sais pas comment on prononce.
Delahaye. Espagnol, Delahaye.
Vous êtes également membre de conseil de quartier, de conseil citoyen à Rouen. Oui. Même question, la démocratie participative, peut-être en complétant la proposition de définition de Louise.
Eh bien, pour moi, déjà, c'est une institution qui a été imposée par l'État, mm-hmm, d'accord ? Et il y a un tel mélange de niveaux qu'il va falloir... parce que l'État, dans la loi, dit qu'il va falloir former les conseils citoyens.
Oui. Donc là, vous parlez des conseils citoyens. Donc
oui, c'est à peu près la même chose, hein, mm-hmm, on va dire, hein.
À la différence que sur la mise en œuvre, les conseils citoyens, il y a un principe de tirage au sort des personnes qui vont,
oui,
y participer.
Voilà, c'est ça le problème, peut-être.
Alors,
parce qu'après, on a tous les niveaux, quoi. Alors, si vous formez les gens, il va vous falloir 10 ans. Là, on a commencé à... On nous a expliqué ce que c'était.
Mm-hmm.
Alors, en gros, c'est... vous voyez les parlementaires.
Oui.
Il y a les députés. Donc, si vous êtes du bon côté... Vous décidez, mais oui, encore en plus, il y a des gens du bon côté qui ne décident pas, d'accord ? Donc, c'est un État totalitaire, il n'y en a qu'un qui commande, c'est le président de la République.
Alors, pour en revenir à cette démocratie participative, c'est peut-être les conseils de quartier qui ont plus d'antériorité que les conseils citoyens. Vous, pourquoi vous y êtes arrivé d'ailleurs ?
Parce que je suivais ma femme, surtout.
c'est une bonne idée de faire contribuer à la démocratie
seul à la maison, donc je l'ai suivi. Et je suis très curieux donc, de voir comment marche la démocratie,
ouais,
on va dire.
Mm-hmm.
Et ben, je ne suis pas déçu.
D'accord. Alors, pour vous, c'était peut-être au départ une envie de découvrir un peu le fonctionnement de cette démocratie
oui,
plus locale.
Oui, voir comment les gens fonctionnaient entre eux. Mais c'est toujours les plus forts qui gagnent. Hein.
D'accord. Alors, vous n'êtes pas déçu. On l'a bien entendu. Je reviendrai vers vous tout à l'heure pour en savoir un peu plus. Francis Bia, Donc vous faites partie d'une autre instance, vous faites partie du conseil de développement à l'échelle de la métropole rouennaise, c'est bien ça?
Oui, tout à fait, conseil.
Alors je vous invite à décaler le micro vers vous, vous allez voir, ça se déplace
voilà.
Très bien.
Voilà. Conseil consultatif de développement, effectivement, de la métropole.
Mmh. Alors comment est pour vous, au sein de cette instance, la démocratie participative, finalement, elle prend quelle forme?
Moi, la démocratie participative, bon, je vais mettre un pavé dans la mer au départ pour nuancer après, mm-hmm. si vous le voulez bien. Moi, pour moi, elle est encore en devenir, cette mm-hmm. démocratie participative. Ouais. Par contre, il y a effectivement des travaux qui sont réalisés, et notamment au Conseil consultatif de développement de la métropole, pour que cette démocratie puisse s'ouvrir à plus de personnes, mm-hmm. et notamment, là, dernièrement, elle s'est ouverte aux habitants de la métropole. Pour l'instant, nous étions, nous, délégués de collèges. Mmh. Moi, je représente effectivement le collège des associations, et notamment les associations de l'environnement.
L'environnement, oui. Mmh.
Donc, qu'est-ce que ça permet, la démocratie participative, ou tout au moins ce qu'il en est construit aujourd'hui? Ça permet des échanges, et notamment des échanges fructueux avec les autres collèges et des collèges auxquels on n'aurait pas l'habitude de s'adresser, c'est-à-dire l'économique, mmh. c'est-à-dire le syndical. C'est tous ces collèges mis bout à bout qui vont travailler sur un projet et qui vont exprimer effectivement quelque chose d'un peu plus consensuel que ce que ça pourrait nous être la perception qu'on aurait.
Donc vous diriez que la première vertu de cette démocratie participative à cette échelle locale, c'est de réunir des gens d'horizons différents pour échanger sur des sujets donnés et croiser des regards.
On va peut-être développer après, parce mm-hmm. que les sujets donnés, effectivement, ça nous laisse pris dans un carcan. Donc ouais. on pourra parler de l'évolution, effectivement, de la démocratie participative après, et son évolution. Non, ça permet au moins d'avoir un respect mutuel mm-hmm. et d'une prise de parole et d'une compréhension de la problématique que chacun soumet.
D'accord.
Voilà.
Ouais. Alors, on voit une première, voilà, un premier point, c'est cette capacité d'échanger avec des personnes qui ne sont pas forcément dans ces cercles habituels. Alors, Louise, comment êtes-vous arrivée, vous, à participer à ces conseils de quartier? On est venu vous chercher? C'est vous qui êtes venu frapper aux portes?
Non, ben en tant que conseil de quartier, on nous a présenté donc le projet.
Et donc on a organisé une réunion où les habitants étaient invités?
Non, il y avait le conseil de quartier.
D'accord.
Donc, on nous a averti qu'il y aurait les conseils citoyens et qu'on pouvait en faire partie. Si on le souhaitait, et on pouvait s'inscrire tout de suite. Donc c'est comme ça que je me suis inscrite.
Alors il y a bien deux outils séparés, les conseils de quartier et le conseil citoyen. Le conseil citoyen, c'est plutôt récent.
C'est tout récent,
et les conseils
oui.
de quartier, vous le disiez, vous en êtes membre depuis le tout début. Mmh. Et justement, comment vous êtes arrivé à participer à ces conseils de quartier, précisément? C'était un acte volontaire de votre
tout
part?
Tout à fait, oui.
D'accord.
Oui,
vous étiez une habitante lambda, entre guillemets, et vous avez eu envie de vous intéresser...
De m'intéresser à mon quartier.
D'accord. Mmh. Donc, dans ce conseil de quartier, donc vous y êtes depuis plusieurs années maintenant, sur quel type de sujet êtes-vous amené à débattre, à échanger, à faire vivre une certaine démocratie, avec toutes les limites que j'entends dans vos propos à tous les trois?
Alors, d'abord, on fait remonter les informations et les souhaits des habitants. Mmh. On fait remonter aussi tous les soucis qu'ont les habitants dans leur milieu, c'est-à-dire dans la rue, etc. Mmh. Les trottoirs, toutes les choses comme ça.
L'aménagement du quartier.
L'aménagement du quartier. On fait remonter aussi, depuis 5 ans, je crois, on a un budget.
D'accord.
Et on doit faire des projets.
D'accord, c'est ce qu'on appelle donc les fameux budgets participatifs.
Budgets participatifs. Mmh. Donc on élabore on donne des propositions. Et puis après, on choisit les propositions. Quoi.
D'accord. Et vous votez au sein du conseil de quartier pour...
Ah non,
il n'y
a pas de vote.
Il n'y a pas de vote.
Pas de vote.
Donc ça marche sur le consensus.
Nous sommes consultatifs.
D'accord. Mmh. Alors même pour l'utilisation du budget participatif, vous faites des propositions et ensuite la décision revient uniquement...
Non, la décision, elle est quand même prise par la mairie en fonction de la possibilité d'exécution de ce qu'on souhaite. Mmh.
Donc finalement, Daniel, dans ce conseil de quartier, il y a quand même des choses qui sont proposées, avec parfois des décisions de la municipalité qui peuvent arriver. Donc vous avez peut-être une petite emprise, mais quand même une emprise sur ce qui se passe, sur le devenir du quartier.
Oui, mais très peu, quoi. On change. Ouais. C'est des contours qu'on change, nous. Mm-hmm. Hein. Mais pour revenir au vote, on a voté une fois sur une décision de choisir un artiste sur la dalle de la grand-mère. Mm-hmm. Donc on a tous voté. Et on a voté pour un truc qui ne pouvait pas se faire. On nous a laissé voter pour un truc qui ne pouvait pas se faire.
D'accord.
Donc on nous a imposé un...
Un autre choix.
Un autre choix, et voilà, c'était ça ou rien du tout.
Alors, donc j'entends vos propos qui sont très nuancés, mais c'est pour ça aussi que c'est extrêmement intéressant. Et finalement, vous continuez à y être dans ce conseil de quartier, donc vous y trouvez quand même une richesse, un intérêt, finalement. Est-ce que c'est plus la rencontre avec vos autres voisins habitants du quartier que dans le rapport avec les pouvoirs publics ?
Oui, moi j'adore le rapport de force et... J'adore communiquer avec les gens, quoi. Mm-hmm. Donc voilà, c'est pour ça que je reste, puis en observateur aussi.
Ouais. Et alors, quel parallèle peut-être faites-vous entre le fonctionnement de cette démocratie de proximité et le fonctionnement de la démocratie au sens plus large, en France par exemple ?
C'est pareil, c'est toujours les autres qui décident.
D'accord. Donc, cette démocratie participative, pour vous, c'est plutôt un alibi qu'une réalité.
C'est un faire-valoir, oui.
C'est un faire-valoir.
Oui,
ouais.
Tout à fait. Et bien fait, des fois, mais... c'est-à-dire qu'il y a des gens qui croient à ce truc-là, mais moi, je ne suis pas dupe. Hein.
Mm-hmm. Ouais. Donc, plutôt,
et beaucoup d'autres personnes ne sont pas dupes non plus. Hein.
Alors, Francis Bia, je vous vois sourire au propos de Daniel. Est-ce que vous aussi, vous partagez ce regard un peu désabusé, en quelque sorte, sur cette démocratie locale ?
Sur mon expérience, tout au moins.
Oui, sur votre expérience, évidemment.
Sur mon expérience, on peut voir quand même certains projets qui sont amendés, voire...
ça couine, ne vous inquiétez pas, ce ne sont que les micros qui se déplacent
oui,
en studio.
On peut voir certains projets qui sont amendés. Ça permet, parce que justement, il y a comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y avait ce respect mutuel entre les différents collèges, entre les différentes expressions, mm-hmm. et on arrive, non pas à un consensus, non pas à un compromis, mais au moins à avoir une pulsion identique sur certains projets, et c'est pas de l'opposition par rapport à un projet politique hein, qui mm-hmm. est présenté, mais c'est plutôt, disons, une assertion. On a envie d'exprimer quelque chose d'un peu plus fort, tous, et on le fait effectivement avec une forme de réalisme et de force. Ce qui fait que, sur certains projets actuellement, on a vu évoluer le projet. Mmh. Pour ceux qui sont de la métropole, par exemple, le cœur de métropole... évolue. Mmh. On était sur trois identifications de secteurs. On est arrivé avec un quatrième secteur identifié qui avait été un peu mis de côté. Mmh. Bon, ça permet... Alors, on ne verra peut-être pas aboutir, mais ça permet quand même, nous, d'avancer certains arguments. Sur la ville respirable aussi, qui est un...
Un appel à projet auquel la métropole
voilà,
a
qui est
été
beaucoup
lauréate.
Plus complexe, même mmh. si ça se situe beaucoup sur l'hypercentre, on a des déclinaisons un petit peu qui vont se faire jusqu'à la périphérie de la métropole, mmh. avec donc des indications en termes de transport, peut-être, qui vont permettre effectivement à l'ensemble de la métropole d'en bénéficier.
Donc finalement, il y a quand même un impact, même si...
C'est pas suffisant pour nous. En tant qu'association, on a toujours de la frustration, je l'entends bien à côté, c'est pour ça que je souris un petit peu. Mais cette frustration, effectivement, pour nous, c'est stimulant, en fait, d'une certaine manière. On dit, on n'a pas réussi ce coup-là, on va réussir demain. Mmh. Et l'évolution, effectivement, de cette prise en charge ou tout au moins de la considération que doit être la démocratie participative par les élus, et notamment dernièrement par le ministère de l'Environnement, concernant la la commission qui avait été mise en place, ou la consultation, effectivement, la commission parlementaire qui avait été mise en place, on s'aperçoit qu'il y a une évolution à ce niveau-là et qu'on va avoir peut-être maintenant des avant-projets préalables à discuter. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, les projets, c'est plutôt...
On vous les soumet, ils sont déjà trop avancés pour
voilà,
pouvoir...
Voilà, tout à fait. C'est plutôt de la concertation. Et la concertation, comme son nom le dit, c'est simplement de la mise en connaissance du projet.
Ouais.
Ce n'est pas autre chose. On peut amender un petit peu, mais on n'ira pas plus loin parce qu'il y a eu des travaux de fait importants, des investissements qui ont été réalisés, notamment par les services techniques de la métropole, pour ne citer qu'elle. Et donc, à un certain moment, on ne peut pas remettre en cause un projet global. Ouais. Effectivement, l'intérêt de l'avant-projet préalable sera une bonne avancée, à mon avis, pour la démocratie participative.
D'accord. Alors, je vous propose qu'on fasse une première pause musicale dans ce ton libre qui parle de démocratie participative et on se retrouve juste après.
You have a billion ways to keep it, your future, your future.
écoutait Face No More, Land of Sunshine. Très beau morceau, j'adore. Et puis ça met l'énergie, ça vous a un peu fait sursauter, non? C'est ça, tout à l'heure en studio, au lancement du morceau. Alors, Émilien, j'aimerais bien t'entendre, parce que là, on a commencé à avoir ce regard de personnes qui sont impliquées, activement engagées dans la démocratie participative. Et toi, tu es allé à la rencontre de Rouennais pour leur parler démocratie participative. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une vraie distance entre ces deux regards?
J'ai pas entendu le début de ta phrase, excuse-moi, parce que le casque était un petit peu loin.
Ah ok, je disais, est-ce qu'il y a une véritable distance entre les propos de nos invités ce soir, qui sont eux impliqués activement dans des instances de démocratie participative, et peut-être les regards que tu as pu recueillir auprès de personnes qui sont peut-être pas forcément partie prenante?
Il y a plusieurs choses qui ressortent, on va l'écouter, mais ouais. De ce petit reportage, effectivement, il y a une vraie volonté, en tout cas, d'implication davantage des citoyens. Un sentiment aussi de déconnexion entre les responsables politiques et puis la population. Et puis, peut-être pour terminer, ce qui ressort aussi, c'est un sentiment un peu d'inefficacité de la part des responsables politiques d'une façon générale.
Voilà. Alors je te propose qu'on écoute tout de suite ce reportage dans les rues de Rouen. Okay.
Qu'est-ce qui pour vous illustre le mieux la notion de démocratie?
Oh, ce serait plutôt le droit de vote.
Le droit de vote.
Oui. Le pouvoir de s'exprimer.
Principalement par le vote.
Ouais.
Il y a des enquêtes d'opinion qui montrent, notamment que parmi les personnes interrogées, qu'il y a un vrai décalage entre les politiques et les citoyens. Est-ce que c'est votre cas aussi?
Oui, le ressenti en général, oui, il est quand même. On a l'impression qu'ils sont dans un monde à part et qu'ils ne sont pas vraiment proches des personnes à la base. Quoi.
Bon, ça, c'est lié à quoi? C'est lié au fait que. Ils ont envie de faire carrière principalement, ils se préoccupent peu de ce que pensent les...
Bah c'est le ressenti général, je pense. Oui. Ils pensent d'abord à leur carrière plutôt que... On a l'impression qu'ils ne se mettent pas à la place des gens.
Et à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait changer?
Ils pourraient peut-être aussi se mettre pendant une semaine, comme on fait l'émission sur les patrons qui se mettent à la place de leurs employés. Pourquoi pas un politique à la place d'un chômeur ou d'une personne à l'usine, à la chaîne? Pour se rendre compte réellement des contraintes. Là, actuellement, le sujet actuel, c'est les agriculteurs. Pourquoi pas mettre un politique dans une ferme? Voilà.
Qu'est-ce qui illustre pour vous le mieux la notion de démocratie? Est-ce que c'est plutôt le droit de vote? Est-ce que c'est plutôt la question des libertés? Ou est-ce que c'est l'engagement citoyen avant tout?
Je dirais les libertés.
Les libertés.
Notamment liberté individuelle, liberté de la presse plutôt.
C'est tout, semble.
Un peu de tout.
Les enquêtes d'opinion montrent en général qu'il y a un vrai décalage entre les politiques d'un côté et puis de l'autre les citoyens. Est-ce que c'est aussi votre senti, ça?
Oui, c'est sûr.
Entre les gens.
Pour eux, ça les intéresse plus parce que pour eux, c'est tous les mêmes.
D'accord.
Ouais.
Pour vous, l'abstention, c'est vraiment un signe de ça, un signe de décalage?
Oui, déjà, oui. La politique, elle ne change pas quand les gens votent.
C'est normal que
les gens se lassent aussi à la fin. Donc ça ne change pas beaucoup de choses. Si vous pouvez développer plus de choses, ça pourrait changer, mais là, ça ne change pas.
D'accord. Est-ce que vous pensez, par exemple, qu'il y a davantage de renouvellement des visages politiques? Est-ce que ça aurait une importance?
Oui, peut-être. Parce que les gens, ils ont de nouvelles idées. Là, les gens qui passent, les anciennes idées, c'est toujours la même, c'est les mêmes idées qui passent à chaque fois, donc peut-être.
Est-ce que pour vous, la démocratie est une chose qui s'apprend, ou est-ce que c'est...